On est en plein roman d'espionnage. Raphaël Jacob s'apprête à nous livrer des informations top secrètes qui montrent que Vladimir Poutine aurait comploté pour faire élire son ami Donald Trump.
La barre est haute, Marie-Claude, avec la petite aide musicale. Écoute...
Cadeau de Larry.
Oui, c'est génial. Écoute, je pense qu'il faut commencer avec la base. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent présentement qui doivent se dire qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Ça fait 5 ans qu'on en parle, là, d'ingérence russe, du fait que Poutine voulait faire élire Trump. Or, voici ce qui est nouveau. C'est que, oui, ça fait 5 ans qu'on en parle, mais ça fait 5 ans que Vladimir Poutine le nie catégoriquement. Qu'à chaque fois qu'il y en a question, à chaque fois qu'il s'y fait poser la question, il dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de mérite à ces allégations-là, je ne suis pas impliqué dans quoi que ce soit. Et là, on a des documents qui viendraient du Kremlin, je le mets au conditionnel, tu vas voir pourquoi dans un instant, là, qui viendraient du Kremlin, donc, et qui montreraient que Poutine était carrément au cœur d'un complot qui remonte à 2016, donc la première campagne présidentielle de Donald Trump, pour le faire élire. Donc, on se serait rencontrés en privé au Kremlin au début 2016, pendant qu'on était encore dans les primaires là, aux États-Unis, et ce qu'on aurait dit essentiellement à l'interne, c'est qu'on doit tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour que Trump soit élu. Parce que, et c'est là que ça devient un petit peu à la fois comique et un petit peu surréel, c'est que on se disait du côté russe, c'est pas parce qu'on veut travailler avec lui, mais c'est parce qu'il est, et là, je cite textuellement le document, là, il est mentalement instable. Et en plus de ça, il souffre d'un complexe d'infériorité. Et donc, une possible Maison-Blanche Trump, ça viendrait plonger les États-Unis dans l'instabilité, dans le chaos. Et nous, c'est ça qu'on veut. Tu sais, c'est quand même majeur. En même temps, écoute, je viens de te donner le mordant de l'histoire.
Oui.
Je pense que ça prend aussi les bémols. Le premier, j'y ai fait allusion il y a un instant, c'est que on n'est pas sûr à 100% d'authenticité du document. Ça mérite d'être dit. Et non seulement ça, mais sans vouloir faire du salissage, là, le journaliste qui a sorti cette histoire-là en premier lieu, disons, et là je pense qu'il faut être très clair, a déjà sorti des fausses nouvelles dans ce cas-ci qui touchait l'ex-directeur de campagne de Trump il y a quelques années. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. C'est très possible que ce le soit. C'est quand même paru dans un quotidien britannique majeur, le Guardian. En même temps, il y a beaucoup de gens, même dans les communautés de renseignement, qui ne sont pas sûrs. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième bémol, c'est que même si ça vient à la limite prouver la volonté ou même le fait que les Russes se sont ingérés, ça démontre quand même pas plus qu'il y avait collusion avec Trump. Parce qu'on se rappelle, là, pendant très longtemps, on a parlé beaucoup de ça. Est-ce que Trump est impliqué? Est-ce que sa compagne est impliquée? Il n'y a rien là-dedans qui démontre quoi que ce soit à ce niveau-là. En fait, il y a de quoi, c'est que Trump passe probablement plus pour un pion que pour un partenaire de Poutine dans cette affaire-là. Puis troisièmement, même s'il y a eu ingérence russe, ça ne démontre pas que ça a changé le résultat de l'élection. Autrement dit, Poutine s'est peut-être ingéré, il était peut-être au cœur de ce complot-là. En même temps, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que Trump ait été élu? Écoute, ça n'a jamais été démontré et peut-être que ça ne le sera jamais non plus. Là,
en effet, souviens-toi de quand on disait que les Russes détenaient des secrets sur Trump.
Oui.
On les nommera pas en nombre parce que
parce que ça se dit pas en nombre.
Ils se disent bien mal en nombre. Oui, c'est ça. Des secrets, mettons, qui impliquaient des femmes et tout.
Ouais.
Et on parlera de femmes dans quelques instants, mais dans un autre ordre d'idées. Parle-nous du gouvernement Trudeau qui pourrait ouvrir la frontière avec les États-Unis le mois prochain. Ça change vite, hein, en temps de COVID, des nouvelles.
C'est merveilleux, hein, Marc-Claude, comment des fois la science évolue rapidement.
C'est fou.
Des fois, ça peut être la science politique un petit peu. Puis, je vais dire ce que je veux dire par là. Je ne vais pas faire dans le cynisme en même temps. Écoute, toi puis moi, on s'en parlait, ça fait pas 48 heures. Puis, il y a 48 heures, il y a moins de 48 heures, on évoquait au gouvernement canadien, et là, c'est le mot exact, là, le désastre qui pourrait survenir avec une réouverture, entre guillemets, trop rapide. Là, on avance à peine 2 jours et c'est un changement presque à 180 degrés. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est non, finalement, on pourrait rouvrir aux Américains d'ici un mois, peut-être même moins que ça. Fait, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est pas que la courbe épidémiologique a changé de façon dramatique depuis 2 jours, c'est que la pression est rendue insoutenable à Ottawa. Parce que là, écoute, ce sont les élus américains des deux partis à tous les paliers de gouvernement qui mettent de la pression. C'était rendu même qu'on avait les premiers ministres des provinces canadiennes qui mettaient de la pression.
Mm-hmm.
C'est la population américaine, la population canadienne aussi qui est rendue maintenant majoritairement en faveur de la rouverture.
Des acteurs de l'économie, puis de
et tourisme. Ben, ça devenait insoutenable. Donc, l'annonce officielle n'est pas faite encore, mais assurément, il va y en avoir une qui va être faite d'ici le 21 juillet, parce qu'on le sait, c'est la prochaine date butoir. Fait que c'est, écoute, c'est très possible qu'on reconduise au moins pour quelques semaines les mesures actuelles et qu'en même temps, on annonce qu'au bout de ces quelques semaines-là, ben là, il va y avoir des assouplissements peut-être importants. Bref, tu peux mettre ça à l'agenda. C'est sûr et certain qu'on s'en reparle d'ici le milieu de la semaine prochaine au plus tard.
Excellent. Et puis, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va y avoir un film qui sera fait sûrement là, sur ce dont tu vas nous parler maintenant, une histoire absolument incroyable. Et tu as 3 belles minutes pour nous la raconter.
OK. Et délicieuse. Une histoire délicieuse. Je ne sais pas si tu l'as lu
oui.
au compliment.
Ah, oui,
écoute,
oui.
Je me suis dit que j'allais te faire sourire avec la, pour la fin de la fin de semaine.
Tu vas me faire sourire quand même.
Good, good. Je vais essayer. En fait, je vais faire sourire au moins les gens qui nous écoutent, ça, c'est sûr et certain, parce que, premièrement, on met le contexte, je te mène dans l'Ouest américain, il y a 3 jeunes femmes. Il y en a une qui habite Salt Lake City, en Utah, et 2 qui habitent Boise, en Idaho. Fait, peut-être pour les gens qui sont un peu moins familiers avec ce coin-là des États-Unis, c'est une distance à peu près comparable entre Montréal et Boston. Tu sais, dans le temps qu'on avait le droit d'y aller en auto. Peut-être dans un mois, ça dit en passant qu'on
oui,
va avoir le droit. Donc, à peu près 5 heures de route. Fait que c'est quand même pas à la porte. Et les 3 femmes qui ne se connaissent pas, ça mérite d'être dit, sont chacune en couple. Mais les 3 femmes commencent à trouver qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui cloche dans leur relation. Fait qu'il y en a une des 3 qui, parce qu'elle est rendue vraiment trop, disons, dans le doute, elle commence à fouiller sur les comptes, dans les comptes de médias sociaux de son chum. Puis elle se rend compte qu'il a au moins 6 autres blondes. Je mets blonde en guillemets dans le contexte. Et là, au lieu de lui péter un plomb, elle commence à en contacter une, puis une autre en privé. Puis éventuellement, l'homme en question, dont on ignore le nom, couche une nuit chez sa blonde de Salt Lake City, se lève le matin, a le culot de faire 5 heures de route pour se rendre direct.
Et de dire qu'il s'en va chez sa famille, dans sa famille.
Oui,
là.
Oui, 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 oui. Et là, ben, ça va, disons, dans une autre, entre guillemets, famille, c'est-à-dire sa blonde, une autre de ses blondes
ben,
en
c'est
Idaho.
Ça. Mais il avait c'est dit ça. À l'autre qu'il s'en allait.
Dans sa famille.
Pour aller. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et là, quand il arrive à Boise, en Idaho, fait 5 heures d'auto, il rentre dans la maison, les 2 filles, donc celle à laquelle il revient, où il arrive, et celle chez qui il arrive, sont en train de se parler par FaceTime. Fait que, écoute, c'est ce qu'on appelle se faire prendre les culottes à terre. Mais, évidemment, le punch, la beauté de l'histoire, c'est que, en fait, il y en a 2. La première, c'est que les 2 filles plus une autre, qui avait aussi été mise au courant, décident de tous le laisser simultanément. Fait qu'il se fait flusher 3 fois plutôt qu'une. Et la deuxième petite perle de cette histoire-là, c'est que ces 3 filles-là, ces 3 femmes-là, qui encore une fois ne se connaissaient pas à la base, décident de prendre ensemble un vieil autobus scolaire, puis de partir en road trip ensemble pour faire un voyage jusqu'à la côte ouest. Fait que tu sais...
Un film. Je te le dis, c'est un
ça.
Film.
Exact,
ça va être
un
film.
Film.
C'est sûr,
absolument.
Sûr, ça. C'est
absolument.
Trop, trop drôle. C'est très... Écoute, puis ça a l'air que quand il a dit, les filles l'ont attrapé, comme tu dis, ouais. Les culottes à terre, il a dit, ben oui, mais il n'y a rien là. On a le droit d'avoir 3-4 blondes. C'est pas grave, tu sais. Ben oui, toi.
Ben oui,
c'est toi,
ça. Ça marche quand il y en a un des acteurs qui est correct avec ça, mais que toutes les autres sont même pas au courant. Tu sais,
c'est, non, c'est ça. Faut que ça
et soit dit en passant, parce qu'il y en a peut-être qui vont se poser la question, là, on se laissera là-dessus, Marc-Claude, mais cette région-là des États-Unis, on sait, est connue pour les couples polygames, parce que c'est vrai qu'il y en a, en Utah particulièrement, avec la religion mormone qui est plus présente, mais soyons clairs, il n'était pas question de ça ici, parce que
quand
t'es polygame, tout le monde sait que t'es polygame, incluant les gens qui sont impliqués amoureusement avec toi. Là, il y en avait un qui savait qu'il y avait de la polygamie, puis c'était le gars.
En tout cas, il devait être fatigué de temps en temps. Ben écoute,
ouais,
on va se laisser là-dessus.
Pour la route, évidemment, à cause de la route. Hein.
Bien sûr. Oh, cher Raphaël, je t'adore. Écoute, merci beaucoup. Bon week-end à toi. Et on se retrouve lundi.
Good, bye-bye.
Salut, bye-bye. 17h48. Après la pause, Jérémy Rainville vient nous parler du menu de Amateurs de sport, l'émission qui nous suit à 18h30.